J'ai réfléchi un peu sur les questions que je me posais et que j'essaierai, qui me serviront un peu de cadre d'analyse pour écouter tout ce qui va être dit et puis poser éventuellement de nouvelles questions. Et ces questions, je les ai regroupées en cinq rubriques. Je vais essayer de ne pas être trop long. La première question, c'est finalement, introduction, réintroduction, est-ce si différent ? Alors, on pourrait dire que la question ne se pose pas, puisque si, par exemple, on regarde la Convention de Berne, eh bien, son article 11 dit que les parties prenantes s'engagent, petit a, à encourager la réintroduction des espèces indigènes, etc., etc., petit b, à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes. Autrement dit, il y a une coupure très nette. Dans un cas, il faut encourager, dans l'autre cas, il faut décourager. Et puis, si on regarde effectivement à l'instant T, on peut dire qu'il existe un certain consensus des scientifiques pour considérer aujourd'hui, avec beaucoup de circonspection, une introduction éventuelle d'une nouvelle espèce et de manière plutôt favorable, au contraire, une opération de réintroduction. Et donc, on peut dire, finalement, il n'y a pas photo, c'est deux questions très, très différentes. Pourquoi je me pose cette question ? C'est que, si on prend une perspective un peu plus longue, eh bien, on a plutôt l'impression d'une certaine continuité de la pensée des acteurs. Vous savez qu'en 2004, la SNPN, donc Société Nationale de Protection de la Nature, a fêté ses 150 ans. Les actes de cette cérémonie sont disponibles sur le net, je vous invite à les lire. Et pourquoi 150 ans ? Ben c'est parce qu'implicitement, elle faisait référence à la création en 1854, donc 150 ans plus tôt, de la Société impériale zoologique d'acclimatation. Ce qui veut dire qu'elle se revendiquait implicitement comme l'héritière de cette longue tradition. Longue tradition qui a perduré encore récemment, puisqu'il y avait chaque année le déjeuner annuel de la Société de l'acclimatation, dans lequel, effectivement, on dégustait des joyeusetés, comme des coups de girafe, des ailerons de tortue ou que sais-je, pour tester l'intérêt d'introduire telle ou telle espèce. Le dernier déjeuner annuel a eu lieu en 1966, donc c'est pas si vieux. Donc, première question, finalement, comment il y a eu cette continuité et comment on est passé, d'une certaine manière, de la situation actuelle, de la situation antérieure où l'introduction était vue positivement à la situation actuelle. Deuxième question que je me pose, c'est ce terme d'indigène, hein, qu'on retrouve dans la Convention de Berne et qui distingue les espèces indigènes ou non indigènes. Et ce critère d'indigénicité, si on peut dire, il a deux dimensions. Il a une dimension géographique et une dimension historique. La dimension géographique, c'est que la France n'est pas une entité biogéographique. Suivant les espèces, elle est découpée, donc si on regarde plutôt les végétaux, elle est découpée en quatre grandes provinces biogéographiques, mais quand on regarde les poissons, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc on peut avoir de ce fait une conception, et souvent ces zones biogéographiques s'étendent par contre bien au-delà de notre territoire. Si on prend la zone atlantique, elle va nous emmener jusqu'aux confins de la Norvège, dans un continuum, effectivement, du point de vue de la biodiversité. Et donc, à partir de là, on peut avoir soit une conception étroite du caractère indigène en disant il faut qu'elle soit présente en France ou qu'elle ait été présente en France dans la zone biogéographique concernée, ou on peut avoir une discussion au contraire assez large en disant il suffit que cette espèce soit présente quelque part en Europe, voire en Eurasie, dans la zone biogéographique concernée, et par exemple se dire ben finalement, si on veut réintroduire des saumons dans la Dordogne, eh bien, le fait qu'ils appartiennent à l'ensemble qui va depuis le nord de l'Espagne jusqu'aux confins du nord de la Norvège, eh bien, c'est bien, il est là, donc il a été là et on peut le réintroduire. Et puis la deuxième question, c'est effectivement l'aspect historique, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à cet argument d'indigène avec parfois des arguments qui remontent à quelques années. L'espèce a disparu, mettons, le bouquetin dans les Alpes ou autre. Donc là, on a des données historiques assez récentes. On pourrait citer le castor aussi, dont on va parler. Parfois, ça remonte à quelques siècles. Hein, le dernier élan français a disparu au XIe siècle, le dernier bison dans les Vosges au XVIIe. Donc on va dire, mais il était là, mais c'était quelques siècles. Parfois plusieurs millénaires, hein, lorsqu'on dit, mais regardez, sur les peintures de Lascaux, il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup au cheval de Przewalski, on va y arriver. Et donc, effectivement, il était là, ça donne un argument. Et donc, la question de comment on va manipuler positivement, bien sûr, cet argument de caractère indigène, c'est une deuxième question que, je pense, on discutera un petit peu. Troisième question, la question effectivement de la pendule et de la dynamique des milieux et des espèces. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, effectivement, aussi bien les biotopes que les espèces, il y a une dynamique évolutive, et qu'à partir du moment où une espèce n'est plus présente dans un endroit, ben, le milieu continue à évoluer, les ressources alimentaires peuvent se modifier, tous les micro-organismes vont se modifier. Et puis l'espèce, à l'endroit où elle est encore présente, a également pu évoluer. Ce qui veut dire que la réintroduction, en fait, c'est une tentative de recouplage entre des choses qui ont toutes les deux évolué et qu'il ne faut pas sous-estimer le caractère aventureux ou en tout cas inédit de cette tentative de recouplage. Et donc le fait qu'on prenne en compte effectivement ces questions et qu'on voit comment on les prend en compte, c'est aussi une question qui m'intéresse pas mal. Quatrième et avant-dernière question, c'est la question de qu'est-ce qu'on introduit. Qu'est-ce qu'on introduit? Et pour revenir à la société d'acclimatation, on voit qu'au XIXe siècle, en fait, la notion d'espèce n'était pas déterminante. Et que ce qu'on regardait beaucoup plus, c'était la dimension ressources, capacité d'accueil, voire milieu à exploiter. Je vous donne un exemple. En 1879, cette société proposait un prix de 500 francs pour à qui obtiendrait la reproduction en France du saumon de Californie, donc le saumon chinook pour ceux qui connaissent, en disant effectivement qu'il y a là, à l'évidence, en France, une niche écologique intéressante pour des poissons migrateurs, et que finalement, ben, le saumon de Californie, ben, c'était un saumon comme un autre, donc il avait ses capacités d'exploiter ce milieu, et donc finalement, ça ne choquait pas de dire que plutôt que de prendre un saumon atlantique, on va prendre un autre saumon. Hein. Alors, ça peut vous sembler de l'histoire ancienne, mais le concept de niche écologique vide et l'intérêt d'y mettre effectivement de nouvelles espèces, eh bien, il est resté présent jusqu'à récemment. Vous savez qu'effectivement, un certain nombre de biologistes, en observant les îles Kerguelen, on observait que ça ressemblait beaucoup à la Bretagne, non pas parce que ça s'appelle les îles Kerguelen, mais parce que l'écologie de ces milieux, ça ressemblait beaucoup effectivement à des rivières à saumon et à truites de Bretagne, et ont entrepris dans les années 50, effectivement, d'introduire toute une série de salmonidés de l'hémisphère nord, avec succès d'ailleurs, dans ces milieux. Et que de même, il y a eu de grandes opérations d'introduction de saumon dans l'hémisphère sud, puisque les salmonidés en sont absents, en disant finalement toutes ces ressources de krill inexploitées, si on pouvait effectivement les faire exploiter non pas par des chalutiers pêcheurs, mais par des poissons qu'ils consommeraient puis qui ramèneraient cette ressource, ça serait une bonne chose. Et alors ça mérite peut-être un débat parmi tous les débats qu'on aura, parce que ça s'appuie quand même sur des théories écologiques pas du tout négligeables, en particulier sur la conception non déterministe de la structure des biocénos, c'est-à-dire le fait de dire finalement il y a une dimension stochastique dans le fait qu'une espèce soit là ou pas là. Il y a une dimension aussi de hasard évolutif, et donc le fait de dire ben, si elle n'est pas là, c'est pas parce qu'elle ne doit pas être là, c'est pas une conception déterministe, mais c'est parce qu'effectivement elle n'a pas eu l'occasion d'y arriver, mais pourquoi on ne la mettrait pas? C'est aussi cette question de qu'est-ce qu'on introduit. Et puis je terminerai, pour ne pas être trop long, sur une question qui a été évoquée dans les introductions, qui sont les aspects éthiques et sociologiques, hein. Puisque dans la Convention de Berne, on dit effectivement que cette réintroduction doit être à la fois efficace et acceptable. Et effectivement, on observe quand même que la question de l'acceptabilité est en train de se poser tranquillement, mais non, de manière non négligeable, aussi bien et peut-être même davantage pour des opérations de réintroduction que pour des opérations d'introduction. Ce qui veut dire que ce que je disais au début, qu'il y avait un certain consensus sur le fait que les introductions, c'était pas bien, puis les réintroductions, par contre, c'était pas mal, eh bien, on voit bien que ça fait débat. Je prends un exemple, l'ibis sacré, qui a été une introduction d'espèces nouvelles, fortuites mais réelles. Vous avez aussi des gens, aujourd'hui des gens qui défendent l'idée que c'était très bien et qu'il ne faut surtout pas essayer d'éliminer l'ibis sacré. Et puis, autre aspect effectivement lié à l'éthique et auquel les gens qui actuellement sont responsables de zoos sont confrontés de manière parfois très violente, c'est effectivement cette question de dire, ben voilà, on va introduire dans la nature des êtres sensibles, et vous savez que les débats sur l'animal être sensible sont en train de revenir dans le débat politique de manière très forte. Et la question de dire finalement quelle éthique on a par rapport à ça, est-ce que si on introduit des individus être sensibles dans la nature, donc dans un milieu qui parfois leur est étranger, au moins en partie, est-ce que c'est pour leur bien d'individus? Est-ce que c'est pour le bien de leur espèce, ce dont ils ne sont pas obligés de se préoccuper? Bon, est-ce que vous vous préoccupez du bien de votre espèce? Bon. Donc, est-ce que c'est pour le bien de leur espèce? Est-ce que c'est pour notre satisfaction, notre bien? Autrement dit, la question, effectivement, de quel droit, c'est-à-dire que l'on pose parfois pour, effectivement, des animaux domestiques ou des animaux en captivité, la question de quel droit, lorsqu'on va faire des réintroductions, se pose, à mon avis, de manière également tout à fait légitime. Donc voilà les quelques questions avec lesquelles j'arrive, et j'aimerais repartir, non pas avec des réponses, mais avec encore plus de questions, parce que vous savez que, contrairement à ce que tous les gens qui ne sont pas scientifiques pensent, la science n'est pas une machine à apporter des réponses, c'est une machine à poser de nouvelles questions. Merci de votre attention.